Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour frère Philippe.
Nous continuons la christologie. Hein. Je l'avais dit à un moment que ça demande du temps, ça demande, c'est vraiment ce qui est le cœur même de notre foi. Nous avons, avec les conciles, essayé de répondre, de voir de quelle façon on s'est dit qui est-il ce Dieu fait homme, qui est-il ce Jésus-Christ. Donc le verbe de Dieu s'est fait homme, on va dire qu'une fois qu'on a ça, j'ai envie de dire, ce qui est un dogme, hein, on appuie notre foi là-dessus. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et en même temps rien dit.
Voilà,
de toute façon, le dogme délimite.
Voilà, le juste du faux, mais il ne dit pas après comment ça se passe concrètement. Où est le comment, finalement, de l'action, du verbe, assumant notre nature humaine et qui va manger chez le publicain et qui reste le verbe qui assume ce manger. Et d'autre part, qui est le verbe qui fait des miracles et qui, utilise sa toute puissance qu'il a de sa nature divine. Et donc, c'est le même. Je ne peux pas couper au couteau et je dois regarder concrètement comment ça se passe. C'est donc la question du comment. Et c'est très scientifique parce que dans la grande tradition, je dirais, de la philosophie, on se pose toujours la question du qu'est-ce que c'est, en grec « tiesti », et c'est seulement après que l'on peut poser la question du « pose ». Comment cela se passe? Et c'est ce que les conciles, après Chalcédoine, se sont efforcés de dire en 553, au 7e siècle, au concile de 681, et au concile aussi, 7e concile œcuménique, au moment en 787, concile de Nicée II, quand il a fallu parler des icônes. C'est cela que nous abordons donc à petits pas, en reprenant donc cette considération qui est très bien dite au numéro 470, parce que l'union mystérieuse, soulignons qu'elle reste mystérieuse, je ne pourrais jamais, par ce que nous disons et parce que les conciles en ont dit, supprimer le mystère. La foi marquée par son intelligence de comprendre, donc une intelligence croyante, ne supprime pas le mystère, mais permet de pénétrer dans le mystère. C'est ça toute la différence. Et donc, dans l'union mystérieuse de l'incarnation, la nature humaine a été assumée, non absorbée. Nous nous souvenons, c'était la danger de l'excessivement chaud des monophysites, hein, qui finalement, ça simplifiait le problème, puisque tout, il n'y avait plus que le verbe. La nature humaine disparaissait. Eh bien, on les a redressés d'une certaine manière. L'Église a été amenée au cours des siècles à confesser la pleine réalité de l'âme humaine avec ses opérations d'intelligence et de volonté et du corps humain du Christ. Le Christ a vraiment une âme avec ses puissances d'intelligence, sa puissance de volonté, avec aussi tout ce qui fait les parties intermédiaires de l'âme, la raison raisonnante, l'imagination, la mémoire, etc. Et jusque dans les parties sensibles, hein, notre Seigneur Jésus a eu une capacité à désirer, une capacité aussi à se mettre en colère. On voit plusieurs fois Jésus se mettre en colère dans l'Évangile. Vous voyez, donc il y a vraiment des opérations qui correspondent exactement à une nature humaine, mais avec la grosse différence, c'est qu'elles sont mues par le Verbe de Dieu. Ce n'est pas la même chose que... Je ne peux pas me projeter en Jésus. Le gros danger chez beaucoup de nos contemporains, qui sont marqués par une sorte d'introspection philosophique, bien sûr qui a été fortement développée depuis Descartes, je pense, donc je suis, vous voyez, c'est des espèces de sujets réflexifs qui aiment bien s'interroger sur lui-même. Je ne peux pas le projeter en Jésus, puisque Jésus est avant même d'avoir son humanité. Mais son humanité est mue par sa divinité en vue du salut et non pas du tout en vue d'être sauvé. Nous, tout ce que nous pensons, tout ce que nous agissons, nous nous posons par derrière la grande question, eh bien, comment finalement je vais aboutir à un sujet sauvé ? Alors qu'en Jésus, Jésus vient comme instrument de salut. Donc toutes les modalités d'usage de son humanité, c'est pour notre salut. Et cela résout déjà énormément, je dirais, le questionnement. Le moi divin est modalisé dans un moi humain en vue de notre salut. Il n'y a pas, je dirais, d'autre possibilité de comprendre le Christ que de passer parce que la révélation, finalement, nous dit de lui, il est venu pour nous les hommes et pour notre salut. Propter nos, et propter nostram salutem, nous le disons dans le credo des saints conciles, Nicée, Constantinople, Florence, que nous récitons chaque dimanche.
Ah oui. Comme dit donc l'article, hein, tout ce qu'il est et ce qu'il fait en elle, donc en cette humanité, relève d'un de la Trinité. Oui, je trouve que c'est extrêmement important de redire ce que tu exprimais tout à l'heure. Nous ne pouvons pas nous projeter en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas parler de lui en nous regardant nous.
En nous regardant nous, voilà. Et ça, c'est une très, très grosse erreur de l'exégèse historico-critique qui a voulu prendre l'Évangile et les textes comme étant un récit ordinaire, comme on lirait une biographie, comme on lirait une histoire d'Hérodote, etc. On ne peut pas se projeter en Jésus-Christ sans les axiomes que nous venons de dire. Il est le Verbe éternel qui modalise son moi divin dans un moi humain en vue de notre salut. Si je perds cette lumière qui m'est donnée par la révélation, je déraille. Et du coup, je finis par dire des bêtises sur « Ah, Jésus a dû penser ça, Jésus a dû sentir ça, parce que moi, je le sens. » Et donc, du coup, je finis par me projeter sur l'identité de Jésus. Et je perds finalement les pédales, je ne suis plus dans la foi.
Mais c'est impressionnant, une phrase comme celle-ci aussi de l'article. Hein. « Dans son âme comme dans son corps, le Christ exprime humainement les mœurs divines de la Trinité. »
Et c'est extraordinaire, c'est dit admirablement bien. C'est exactement ça, ce qu'il faut dire. Son mode d'exister singulier, propre, est celle de la personne divine, celle du Fils, qui exerce donc ses capacités humaines de connaître et de vouloir, qui sont celles de notre nature humaine commune. Nous avons la même nature humaine, mais nous l'exerçons évidemment comme une personne, je dirais, créée. Nous sommes donc dans le contingent le plus fini. Notre Seigneur Jésus est dans l'infinité de son identité divine. Et donc, il transcende totalement notre façon d'être et notre façon de voir. C'est cette modalité qui est importante à saisir.
Maintenant, nous ne pouvons pas nous projeter dans le Verbe de Dieu, dans le Christ Jésus, mais sous l'effet de la grâce des sacrements, par exemple, le Christ se projette en nous, d'une certaine façon, enfin, ou donne à voir quelque chose de Dieu.
Alors, le Christ s'unit à nous, et nous en lui, il y a un admirable échange qui se fait, et cela nous permet d'épouser, je dirais, les mœurs divines. Quand, par exemple, le très beau passage du Gaudium et Spes numéro 22 dit « Le Fils de Dieu a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme, né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous en tout, semblable à nous, hormis le péché. » Ce « il » qui est marqué avec une majuscule dans le catéchisme nous rappelle que c'est l'identité du sujet. Et cela fait que le fait que dans sa vie terrestre, Jésus a vécu vraiment notre vie humaine, en nous unissant à lui par les sacrements, eh bien, d'une certaine manière, nous pouvons vivre quelque chose de ce que lui-même a vécu dans sa vie terrestre. Nous actualisons sa vie terrestre dans nos propres vies. Il y a quelque chose de cet échange mystérieux entre la vie du Christ et la nôtre.
Mais l'homme dans la grâce donne-t-il quelque chose à voir de Dieu? Alors on va penser à la sainteté. Jusqu'où peut-on aller pour dire quelque chose comme ça? L'homme dans la grâce du sacrement, comment Dieu se donne-t-il à voir pour nous aujourd'hui, si je voulais spirituellement extrapoler les choses, en nous, en ses enfants, dans les croyants, dans ceux qui s'en remettent à lui?
Eh bien, je dirais qu'il nous autorise à être avec lui. Non pas instrument de salut au sens unique, de l'unique médiateur, mais comme médiateur dans une médiation participée. Et Dieu permet, dans le fond, que ce qu'il a vécu sur la terre dans le Verbe incarné, nous puissions, à notre mesure, y participer. Mais en sachant que nous resterons toujours dans la tension d'un aboutissement de nos mérites vers le salut, alors que Jésus est déjà il apporte le salut. Donc ça restera toujours, il y aura toujours un décalage, un peu comme il reste toujours un décalage entre la créature qui reste finie et l'incréé qui est Dieu. Et donc nous ressentirons toujours ce décalage. Mais au niveau de la vie, nous avons une communication par participation. Participons vraiment à la vie divine.
Et dire cela, du reste, ça pourrait penser être un peu négatif que de dire ce décalage, mais c'est une réalité. Mais c'est aussi ce qu'il y a de positif là-dedans, c'est que nous existons vraiment, il n'y a pas d'absorption de l'homme par Dieu.
Voilà, il n'y aura jamais d'absorption de l'homme par Dieu, et même au ciel, lorsque nous serons dans la vision béatifique, qui sera bien sûr limitée à notre nature humaine, qui n'aura pas l'intensité de la vision béatifique que notre Seigneur a eue sur la terre, nous ne serons pas absorbés en Dieu. Nous resterons, nous ne serons pas dissous dans le grand tout, comme dans certaines idéologies extrêmes orientales, où l'homme finalement disparaît dans le grand tout. La réalité de personne, c'est ça qui est l'essentiel.
Merci, frère Edouard.